Vous écoutez
RMC. RMC. Radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
Les JO de Paris 2024, c'est dans, Vincent, combien de jours?
98.
98 jours. Il rêve.
Moi, tu me le dis, je te le dis.
Il rêve d'un titre olympique après Tokyo en 2021, d'un deuxième titre olympique, un doublé. Le sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball, Olivier Crombol, c'est avec nous dans le Super Moscato Show. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Comment
tu vas?
Salut.
Bien.
Ça va, coach? T'es en forme?
Ouais, très bien. On sort de deux semaines de travail, là.
Ouais, ça va.
Pas mal, ouais.
J'ai lu que vous pensiez, ça y est, aux JO tous les jours. Tous les jours.
Ah mais un peu plus même.
Combien de fois par jour?
On y pense tout le temps.
Tout le temps?
Ouais, on y pense tout le temps. Par contre, on n'est pas pressé que ça arrive, hein, parce qu'on a du boulot encore.
On va en parler.
Non mais quand tu vis les JO, c'est quelque chose de tellement magique, c'est obsessionnel.
C'est comme une Coupe du Monde pour un sport collectif.
À Paris, ça doit être un enfer. À Paris, si tu imagines, tu veux être médaille d'or, tu es déjà médaille d'or, tu veux l'être à tout prix. Ça doit être une pression supplémentaire terrible.
Ah énorme. Nous, on a tendance à considérer que les JO, c'est au-dessus de tout. Alors, comme c'est à Paris, c'est encore multiplicateur, on va dire.
C'est
20 fois plus important que d'habitude.
Olivier, ça y est, les Jeux, donc c'est parti pour vous. Cette semaine, c'était le tirage au sort du tournoi olympique.
Qu'est-ce qui a changé, Olivier, toi qui as connu les premiers JO à Paris?
Il y a 100 ans.
Ça a changé depuis un peu.
Les JO, c'est parti. Donc cette semaine, c'était le tirage au sort du tournoi olympique. Et vous avez choisi votre groupe. On en a parlé en début de semaine avec Guillaume Gilles, votre homologue chez des hommes. C'est une particularité du handball. Quand un pays reçoit une compétition, vous avez le choix du groupe. C'est comme ça. Et puis on le prend, c'est très bien. Le groupe A, c'est la Norvège, Allemagne, Slovénie, Suède, Danemark, Corée du Sud. Le groupe B, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Espagne, la France, le Brésil et l'Angola. Je résume, je caricature, vous avez choisi le groupe le plus facile.
Oui.
Pourquoi cette stratégie? Pourquoi démarrer dans le confort?
C'est pas démarrer dans le confort, c'est-à-dire que si on prend le groupe A, toutes les grosses équipes sont dans le groupe A, on va cravacher à chaque match avec un côté très aléatoire en termes de place. À l'idéal, c'était le Danemark d'un côté et la Norvège de l'autre. Et moi, je partais dans la poule de la Norvège pour être certain de ne pas les prendre en quart. Donc là, il faut très bien se classer. Je pense que la Norvège va faire premier ou deuxième. Il faut très bien se classer pour pouvoir les éviter. Si on fait premier, on évite le premier de l'autre poule jusqu'au bout. Ça, c'est un objectif.
Mais en tout cas, il y a l'assurance d'avoir un quart de finale très solide qui pourrait être une finale.
Ouais, c'est le danger de ce choix, c'est qu'on va avoir effectivement un quart de finale. Là, ça va être très chaud.
Sans vraiment pouvoir se jauger au très haut niveau en poule.
Si. Attendez, il n'y a pas que des tocards dans la poule.
On va les jouer, toi, Stephen.
Il y a la Hollande, il y a l'Espagne. Non, il y a des bonnes équipes. Notamment la Hollande, c'est tout proche du niveau des meilleurs. Donc, on aura quand même des matchs.
L'Espagne, c'est une bonne équipe, l'Espagne?
Très difficile à jouer.
Et pour vous,
ça vous colle au basque, là. C'est très difficile à jouer.
Pour que tu te rendes compte, Vincent, la phase de groupe est à Paris. Et le quart de finale, tu passes dans une autre dimension. C'est-à-dire que si tu joues une belle équipe, très dure, tu vas à Lille, au stade Pierre-Mauroy. Dans une ambiance de folie. Enfin, voilà, c'est aussi un contexte à appréhender. Ce quart de finale sera vécu déjà comme le grand moment des JO, quoi.
Oui. On a déjà joué avec les garçons au stade Pierre-Mauroy sur le mondial 17, et c'était un événement extraordinaire. On compte sur le public. De toute façon, nous, on a bien l'intention de surfer sur l'ambiance et de tirer profit à la fois du soutien de notre public, mais aussi de la surmotivation que l'on a par rapport à jouer en France. Très honnêtement, on ne va pas faire de cadeau.
Les championnats vont s'arrêter. Vous partez combien de temps en stage? Vous partez en stage, vous avez quoi, 15 jours, 3 semaines?
Un peu plus, on va se retrouver le 12 juin. Il nous manquera quelques filles qui vont faire le Final Four. On leur laisse quelques jours de plus pour récupérer. Mais on a fait le choix de commencer tôt, très tôt. Après, on fera des petits breaks, on fera un peu de team building, des choses un peu sympas. Mais on va beaucoup travailler.
Parce qu'elles sont en fin de saison, il va falloir quand même gérer la fatigue avant de recommencer peut-être une mini-préparation.
Ouais, je vais à Paris, pas de fatigue.
Pas de fatigue, ouais. à la suivante.
Olivier Crombol, le sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball, à 98 jours des JO, est avec nous dans le Super Moscato Show.
Olivier, tu disais, à Paris, c'est particulier. En 2021, c'était à Tokyo, il n'y avait personne. À Rio, c'était au Brésil, donc il n'y a pas forcément de sollicitations. Comment tu fais pour gérer toutes les sollicitations, la famille, les amis, les places et tout ça en étant à Paris. C'est un truc à prendre en compte, ça.
Ouais, ben vous savez, je suis revenu en 2016 et depuis que je suis revenu en 2016, on a quand même beaucoup structuré autour de l'équipe de France. Le handball français, c'est pas un sport très riche. Par contre, on met les moyens sur les équipes de France. On a des staffs qui sont très étoffés.
D'où les résultats.
Et on compte bien aider les joueuses à tout gérer. Alors après, c'est pas facile. Hein. Il est bien évident que ni en termes de billetterie, ni en termes d'hébergement. Mais vous savez, l'hébergement, déjà à Londres, on s'est rendu compte que les prix augmentent énormément un an ou un an et demi à l'avance. Et puis... il y a une offre hôtelière de folie à Paris comme à Londres et je ne suis pas certain que le public olympique va suffire à remplir tous les hôtels alors que la plupart des touristes lambda ne veulent pas venir pendant les Jeux Olympiques.
Olivier, vous allez
avoir des bonnes surprises en termes de prix au tout dernier moment.
Vincent.
Justement, tu parlais de 2016. Souvent, on parle de la remise en question des joueurs, des joueuses, bien sûr. Toi, tu t'es remis en question. Tu avais été dans le conflit avec ces filles. Tu t'étais un peu déchiré. Et puis ensuite, il y avait eu un point d'arrêt. Tu avais dit, bam, tu te casses. Et puis voilà. Et puis tu es revenu. C'est une remise en question parce que les générations parfois passent. C'est difficile de s'adapter.
Oui, alors après, quand j'ai été évincé en 2013, on a beaucoup dit que c'était parce que les joueuses en avaient marre. Mais... quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Alors après, on avait déjà commencé en 2011-2012 à opérer un mouvement. Je pense que Claude Onesta a montré la voie sur le coaching participatif. Mais quand je suis revenu en 2016, c'est vrai que j'avais modifié beaucoup mon coaching. On est passé sur autre chose, plus calme, plus bienveillant, plus ouvert avec les joueuses, plus de partage. Même si on pourrait parler longtemps du coaching participatif et que c'est pas la suppression de l'autorité,
c'est pas
non plus la prise de pouvoir des joueurs.
Olivier, vous avez
vous votez pas pour les capitaines, tout ça ou...
Non.
Vous venez de dire, on va beaucoup travailler avec l'œil un peu noir puisque vous sortez d'une phase d'un bloc de 3 matchs. Le dernier match s'est passé difficilement face à la Roumanie, victoire 30-28. Après le match, vous n'étiez pas content. Je vous ai entendu dire il y a pas si longtemps que ça, le succès rend fou. Vous êtes championne du monde en titre. Il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. C'est dur de toujours tout gagner. Elles se relâchent un peu, les filles. Comment ça se passe là?
Vous savez, quand vous gagnez et que vous avez l'impression, on s'éloigne jamais aussi loin que lorsqu'on croit connaître la route. Donc, à un moment donné, quand vous finissez par peut-être être un peu suffisant parce que vous avez gagné, c'est dangereux parce que ceux que vous avez battus, eux, ils sont pas suffisants.
Donc, piqûre de rappel les derniers jours là.
Voilà, et ils se battent. Et là, on a joué une jeune équipe roumaine qui commence à construire son aventure, qui a joué sans complexe et qui a mieux joué que nous. C'est un bon avertissement. Mais il y a une autre image aussi, c'est quand vous êtes monté tout en haut de la montagne. Et que vous voulez remonter sur l'autre montagne, il faut d'abord descendre la première. Il faut que le boulard,
T'as compris, Eric ?
Il baisse un petit peu.
À part si t'as un fil et une perche.
Oui, alors là, oui, ben c'est ce qu'il faut chercher. Toujours sur le fil du rasoir.
Olivier Crombols, invité du Super Moscato Show avant les JO, le sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball. On reçoit beaucoup de messages dès qu'on parle de l'équipe de France et quand on vous reçoit qui concerne une joueuse qui est populaire, Cléopâtre Darleux, gardienne de but, qui joue à Brest, Vincent qui a été absente 13 mois suite à des commotions cérébrales, suite à le ballon pris dans la tête. Qu'en est-il avec elle, à son sujet? Est-ce qu'elle peut encore faire les Jeux? Est-ce que vous discutez régulièrement avec elle? Elle a repris la compétition avec son club.
Oui, mais on discute régulièrement avec elle, bien sûr, le médecin plus que moi. Elle va bien en termes de santé, c'est déjà l'essentiel pour elle, parce qu'elle a eu des symptômes pendant longtemps, elle va bien. Elle a repris depuis un bon moment, mais nous, par rapport à l'équipe olympique, on a besoin d'être rassurés sur son niveau de jeu, et on a besoin qu'elle joue. Il y a 3 gardiennes à Brest. Et
on rappelle que c'est un groupe réduit pour les Jeux, c'est 14 joueuses, c'est ça
Oui, c'est 14 joueuses et non pas 16. Avec 3 remplaçants. Donc, au jour le jour, on attend la reprise du championnat.
Olivier, excuse-moi de te couper.
Oui.
Mais les commotions, on en parle beaucoup dans le rugby, on n'en parle pas même au foot pour les têtes. Au handball, à la vitesse où va le ballon, les goals sont dangereux. Pourquoi vous ne mettez pas un casque?
C'est une bonne question.
Pourquoi ne mettre pas un casque?
La question, est-ce que les commotions deviennent un vrai sujet dans le handball? Les commotions,
c'est sûr. Les commotions, ça devient un vrai sujet dans le handball.
Je ne dis pas des joueurs de champ, à la limite. Mais les goals, les goals quand même qui sont sollicités quand même en permanence, parce qu'il y a un tir au but toutes les 30 secondes, ça arrive vite, tu le prends dans la tronche. Les nanas, elles ont quand même moins de, même si c'est des nanas sportives, elles ont moins de cervicales que les mecs, ça secoue quand même.
On a posé la question. On a posé la question à des spécialistes qui nous disent que, pour l'instant, le premier ami, c'est que le casque ne changera pas forcément. Alors, il n'y aura pas l'impact sur le visage, mais il y aura quand même l'impact sur le casque. Et à un moment donné, ils disent que ça pourrait donner la même chose. Mais moi, je crois qu'on y arrivera.
Non, mais moi, sur la tenue, moi, je crois
qu'on y arrivera.
Déjà, ça t'empêche. Bon, alors, le ballon ne fait pas de coupure.
Non.
En boxe, pourquoi on met le casque? Parce que d'abord, ça atténue les coups.
Et les coupures.
Alors, ça n'atténue pas 100% des coups, mais même 20, 30%, 40%. Ça t'empêche des fois de faire un KO. En plus, bon, les coupures, bon, en boxe, tu peux être arrêté. Après, si t'es coupé en match, tu peux être arrêté. Mais je suis sûr que ce serait un point positif pour les nanas, même pour les mecs, de mettre un casque au moins au gardien.
Ben, ça va être réfléchi, à mon avis. Après, on va le faire ou pas. C'est que les gardiennes disent ouais, ça
et
va,
un gilet pare-balles.
Oui, aussi.
Ça va gêner, mais non, ça gêne pas. Tu le mets là, c'est l'habitude.
Quand on est arrêté pendant des mois,
ça gêne.
Tu crois que ça
plus,
gêne pas,
ouais,
ça
gêne beaucoup plus.
Mais là, en plus, t'as les ouvertures jusque-là, t'as les mêmes trucs, et t'es sur les tempes bien protégées, sur les mentons, sur le front, ça t'atténue quand même. Le mec qui dit, c'est le mec qui dit que ça atténue pas, il en a jamais pris des coups. Tu lui dis, voilà, mets le casque, le tout vide. Tu lui mets une droite, t'enlèves le casque, tu lui dis, tu vas voir la droite que je vais te mettre sans casque. Tu vas voir qui va vite remettre le casque.
Hein, merci beaucoup Olivier Cromboche.
Merci Olivier.
Petite dernière question pour savoir si vous êtes prêt, la date de la finale olympique pour vous. Vous l'avez coché ou pas?
Ah bah je l'ai coché, oui.
C'est quoi la date?
Je ne la connais pas exactement.
Ah,
je crois que c'est le 8, mais.
C'est le 8.
Il ne la connaît pas, mais il sait qu'il y sera.
C'est le 8, je pense.
Évident que, bon, que ce soit le 8, le 9 ou le 7.
C'est dommage qu'on ne peut pas t'avoir plus longtemps. Le sport féminin a évolué terriblement, encore plus que les mecs.
Ouais,
ces 10 dernières années, ça a dû être un truc de fou, non?
Et nous, on est très fiers avec l'équipe féminine d'avoir rattrapé un peu les garçons en termes de résultats et en termes de spectateurs. Ah ouais. On remplit à chaque match en ce moment, même les grosses salles. Et ça, c'est une vraie satisfaction pour tout le monde.
Et d'avoir dépassé le basket?
Non, je sais pas.
Ça dépend. Merci beaucoup, Olivier Cromboche, d'être venu.
Merci, Olivier. On croise les doigts pour toi. Bonne chance.
Et on va se croiser de nombreuses fois pendant les JO.